au chapitre 19 et au verset 1er. Voilà, on va parler d'un petit homme qui a fait une grande expérience. Zachée. Luc chapitre 19, je me mets sur le côté pour que vous puissiez avoir la possibilité de voir le texte sur l'écran. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Voilà, vous avez certainement entendu parler ces jours-ci des Paradise Papers. Vous n'avez pas entendu ça? Bon, peut-être que je n'ai pas le bon accent, hein. Stéphane me corrigera. Des gens fortunés, qui placent leur avoir dans des pays que l'on appelle des paradis fiscaux et qui ainsi, plus ou moins régulièrement, plutôt moins que plus, parviennent à échapper aux impôts. Hein? Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et de tout pays et de tout temps, des hommes ont triché pour s'enrichir. Et Zachée, dont ce texte nous fait mention, était l'un de ceux-là. Parole de Dieu nous dit qu'il était chef des publicains. Qu'est-ce que c'était que ces gens-là? Les publicains, c'était des juifs qui percevaient les taxes en faveur des occupants romains, puisque les Romains occupaient le pays d'Israël, qui percevaient des taxes pour les Romains, donc, de la part de leurs compatriotes. Et au passage, souvent, ils détournaient des fonds à leur profit. Et ainsi, ils étaient haïs de leurs concitoyens, des autres juifs. Vous voyez, ils étaient haïs pour deux raisons. D'abord, c'était des collaborateurs de l'occupant. Hein, et d'autre part, ils étaient malhonnêtes. Et les publicains avaient une fort mauvaise réputation dans le pays. Et en plus, Zachée, il était chef des publicains. Non seulement publicain, mais il était à un niveau supérieur et sa fonction lui avait donc permis de s'enrichir fortement. Alors, à première vue, humainement parlant, on pouvait considérer que cet homme n'avait pas de problème majeur. D'abord, il était riche. Mieux vaut après tout être riche que pauvre, parfois. Il n'avait pas de problème de santé. Bon, il était de petite taille, mais ça, ce n'est pas une infirmité. Il n'est pas question de problèmes familiaux, rien de semblable. Tout allait bien pour lui. Oui, mais il y avait quand même un problème. C'est que il était perdu. Pourquoi? Les gens ont dit, à juste titre, c'est un homme pécheur. Et c'était vrai. Zachée était un pécheur. Et chers amis, il faut que je vous dise que ce qui était vrai pour lui, c'est également vrai pour nous tous, n'est-ce pas? Pas besoin d'être un escroc pour cela. Même le meilleur des hommes, même la plus excellente des dames, n'est encore qu'un pécheur ou une pécheresse. Alors, on pourrait dire ça très, très simplement en disant qu'un pécheur qui s'estime heureux, peut-être c'était le cas de Zachée, on peut le supposer, est malgré tout perdu. Parce que justement, il est un pécheur. Et oui, le péché a des conséquences fâcheuses, dramatiques, épouvantables, lourdes de conséquences, non pas seulement quant à ce qui concerne notre vie ici-bas, mais quant à ce qui concerne l'éternité, car l'éternité nous attend. L'Écriture dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Le péché provoque la perdition éternelle. Et oui, tous les pécheurs qui restent dans leur condition, dans leur état de pécheur, dans leur état de péché, devront un jour comparaître devant Dieu et seront rejetés, justement du fait de leur péché, dans les tourments éternels. C'est ça être perdu, mes amis. C'est ça être perdu, n'est-ce pas? C'est être sous cette condamnation qui nous atteindra à coup sûr, si l'on demeure dans cette situation de péché. Alors, moi, cet après-midi, je me permets de vous poser cette question. Il vous appartient à chacun d'y répondre personnellement. Où en êtes-vous quant à votre âme? Nous vivons dans une société où on privilégie beaucoup l'aspect matériel, l'aspect corporel aussi. On prend soin, à juste titre, de notre santé physique, n'est-ce pas? Le culte du corps a pris une grande importance. Mais où en êtes-vous de votre âme? Parce que lorsque votre corps aura fini de se décomposer au fond d'une tombe, votre âme, elle, eh bien, elle ira là où elle doit aller. Où en êtes-vous? Êtes-vous sauvé? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Voilà, en toute bonne foi, pouvez-vous dire, eh bien voilà, je suis au clair avec le Seigneur, si ce soir je passe de vie à trépas, je m'en vais direct là-haut, alléluia. Vous voyez, tout à l'heure, ma fille m'a téléphoné en m'avisant qu'une chrétienne de 104 ans de l'Assemblée d'Avignon vient de décéder. C'était une femme que j'appréciais beaucoup. C'était une femme de foi, c'était une femme de prière. Vous voyez, elle a connu l'Évangile, elle avait 8 ans. 8 ans. Vous voyez, elle s'est convertie un petit peu plus tard, vers 25 ou 30 ans. Et pendant toutes ces années, pourtant, elle a eu des malheurs, des misères, des coups durs, des problèmes. Elle a marché avec Dieu. Et quelque part, je suis malheureux parce que je ne la verrai plus. Mais en même temps, je suis heureux parce que je sais qu'elle vit dans le royaume des cieux. Vous voyez. Cette femme était sauvée, non pas parce qu'elle était extraordinaire, mais parce qu'elle avait fait la paix avec Dieu. Parce qu'elle avait fait la paix avec Dieu, elle s'était réconciliée avec son Créateur. Alors et vous, où en êtes-vous, chers amis? Si ça n'est pas le cas, si ce n'est pas encore fait, si la question du salut n'est pas réglée, si vous n'êtes pas au clair avec Dieu, hâtez-vous de régler cette question primordiale. Primordiale. C'est la question majeure, la plus importante de vous. Doute, où passerez-vous l'éternité? Régler la question de votre salut, de votre éternité. Alors donc, revenons à notre texte. Zachée était un pécheur, parce qu'il était un pécheur, il était perdu. Mais bonne nouvelle, quant à Zachée, il était perdu, mais il fut sauvé. Alléluia, ça c'est la bonne nouvelle. Parce que Jésus lui a dit, quand il est entré dans la maison de cet homme, Jésus lui a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Voilà, le salut. Zachée, tu étais perdu, tu étais sur un chemin de condamnation, de perdition éternelle, tu marchais tête baissée vers l'enfer, mais maintenant, eh bien, le salut est entré dans ta vie, Zachée. Voilà. La bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'on peut donc être sauvé, gloire à Dieu. Quelle que soit la mesure de nos péchés, quel que soit le nombre de nos péchés, moi je ne sais pas si vous avez commis des péchés en pagaille ou un peu moins, quelle que soit l'horreur, la gravité, l'importance du mal que nous avons pu commettre, nous pouvons être sauvés. Oui, tous les pécheurs peuvent être sauvés. D'ailleurs, Jésus l'a dit là, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, c'est ainsi qu'il parle de lui, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Le projet de Dieu, c'est de vous accorder le salut. Dieu a de bonnes intentions. Dieu est plein de bienveillance. Dieu, n'est-ce pas, a des projets merveilleux pour votre vie. Et ça commence par le fait qu'il veut vous sauver. Tous et chacun, nous sommes concernés. Et on peut être sauvé instantanément. Jésus a dit, le salut est entré quand ça? Aujourd'hui, dans cette maison. Ça n'a pas pris longtemps. Ça n'a pas été au travers d'une longue et lente initiation que Zachée a reçu le salut. Ce n'est pas non plus en accomplissant des choses extraordinaires, remarquables, hors du commun. Non. Cet homme qui était perdu a été sauvé sur le champ. Il est passé d'un état à l'autre sur le champ. De son état de perdition à l'état de salut. Et ça peut être pareil pour nous, parce que les conditions pour être sauvé peuvent être remplies par chacun sans tarder. Si vous êtes entré dans ce lieu tout à l'heure sans avoir fait la paix avec Dieu, sans vous être repenti de vos péchés, étant sur un chemin de perdition, vous pouvez sortir de ce lieu en ayant reçu la grâce, la miséricorde et le salut de votre âme. Alléluia. Vous voyez, ça, c'est instantané. En tout cas, c'est possible qu'ils le veulent bien, pour ceux qui le veulent bien. Et justement, puisque nous parlons des conditions pour être sauvés, quelles sont ces conditions? Eh bien, nous allons l'apprendre en examinant le cas de Zachée. Zachée, il a fait 4 choses qui lui ont permis d'accéder au salut. Et vous allez voir que ce n'est pas des choses hors de portée. Non, non. Des choses, au contraire, qui sont à notre mesure, que chacun d'entre nous, nous pouvons mettre en pratique. D'abord, Zachée, il est descendu de son arbre. Hein? Voilà. Jésus est entré dans la ville de Jéricho, il y avait beaucoup de monde autour de lui, et comme Zachée était un petit bonhomme, même en se dressant sur la pointe de ses orteils, il ne parvenait pas à voir Jésus. Et comme il voulait voir Jésus, il l'a précédé sur le chemin que Jésus devait emprunter et il est monté sur un des arbres qui bordait le chemin en question. Et il s'est dit, là, je suis bien installé sur mon perchoir, j'ai résolu le problème, je suis petit, mais maintenant je suis devenu grand sur mon arbre. Et quand Jésus est arrivé au pied de l'arbre, comme s'il avait toujours su que Zachée devait être là-haut, parce que Jésus sait tout, il a levé les yeux et lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Et il a dit que Zachée, eh bien, il s'est dépêché de descendre. Il est descendu de son arbre. Voyez. Alors réfléchissez, il s'était grandi artificiellement en montant sur l'arbre. Et il est venu à son niveau véritable. Eh bien, c'est ce qu'il nous faut faire. Ça. Parce que nous, les humains, nous avons tendance à nous grandir en mettant en avant nos capacités. Et il y a des gens, ils montent sur des arbres comme ça. Par exemple, il y a des gens, ils montent sur l'arbre des bonnes œuvres. Voilà, j'ai fait du bien autour de moi. Hein, j'ai donné à la Croix-Rouge, au Téléthon, n'est-ce pas ? Aux Cannes Blanches, je ne sais plus trop quoi. Alors, j'ai fait du bien. Certainement que ça va me valoir l'approbation de Dieu. Je suis sur l'arbre des bonnes œuvres. Il y a l'arbre de la religion. Ah, moi, monsieur, j'ai ma religion. Hein? Un ami, prédicateur, lorsqu'il venait, il n'était pas encore prédicateur, il faisait ses premiers pas dans la découverte de l'Évangile. Un jour, un monsieur est entré dans une salle comme celle-ci. Alors, c'était un jeune homme, ce futur prédicateur. Il s'est approché, il a commencé comme les chrétiens le font. Il dit, bonjour monsieur, on est heureux de vous recevoir. Et puis, il a embrayé la conversation. Est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus comme votre sauveur? Et l'autre lui a dit, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ah non, non, c'est la première fois que je vous dis. Je suis huguenot et fils de huguenot. Il avait sa religion, il était protestant. Alors, il pensait que ça, c'était méritant aux yeux de Dieu. Il était monté celui-là sur son arbre. L'arbre de la religion. Il y a l'arbre de la moralité aussi. Ah, j'ai fait du mal à personne. Voilà, je suis un mari fidèle. Je suis une épouse modèle. je suis vraiment au-dessus du lot. Ah, c'est des gens qui montent sur leur arbre, ça. Alors, je ne sais pas, peut-être vous êtes monté sur un arbre. Qu'est-ce qu'il faut faire comme Zachée? Il faut descendre. Il faut descendre de l'arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut venir à notre niveau véritable. Et qu'est-ce qu'on a dit qu'on était tout à l'heure? Des pécheurs. Voilà. C'est sur ce terrain-là que Jésus vous attend. Si vous êtes monté sur votre arbre, il vous dit, oh, descends un petit peu. Et viens à ton niveau véritable. C'est-à-dire qu'il vous faut reconnaître devant Dieu, pas devant un confesseur, mais devant Dieu, que vous n'êtes rien d'autre qu'un pécheur. Confessez-le à Dieu, à Dieu. Tout à l'heure, on priera. Et pendant ce petit moment de prière, dites à Dieu, dites-lui, je suis un homme pécheur. Je le reconnais, je le confesse, je te l'avoue, Seigneur. Ou pour les dames, je suis une femme pécheresse. C'est la première chose qu'il a fait. Il est descendu de là. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte. Et Jésus, il lui a dit, tu es le bienvenu. C'est écrit, hein? Il le reçut avec joie. Voilà. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, sois hâte de descendre et le reçut avec joie. Il a ouvert la porte. Il a accepté, il a accueilli Jésus dans sa maison. Ben, c'est ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il vous faut recevoir Jésus. Non pas un crucifix en pendentif, là, c'est pas ça dont il est question, une médaille pieuse, non. Recevoir Jésus, non pas comme un visiteur temporaire, mais accepter qu'il devienne votre Seigneur et votre Maître, celui que désormais vous allez servir, aimer, à qui vous obéirez. Ce n'est pas hors de portée d'obéir au Seigneur, c'est bienfaisant. Amen. Les gens qui pensent, oulalalala. Si je décide d'obéir à Jésus, mais je ne pourrais plus faire ceci, je ne pourrais plus faire... Ma liberté va en prendre un bon coup. Je serai ligoté. Je ne pourrai pas être maître de mes propres décisions. Je serai pris dans un carcan, là, ce sera épouvantable. Mais non, mes amis, c'est pas ça. Écoutez ce que dit Jésus. Il dit, recevez mes instructions. C'est-à-dire, obéissez à mes commandements. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Jésus ne vient pas là nous asservir, nous dominer, nous faire de nous de véritables esclaves. Ce n'est pas un despote, ce n'est pas un tyran. Non, je suis doux et humble de cœur. Recevez mes instructions. Mais mettre en pratique la parole de Dieu dans la vie de chaque jour, ce n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais c'est bienfaisant. Alléluia. Voulez-vous connaître une vie harmonieuse, une vie de couple heureuse? Eh bien, acceptez l'enseignement de Jésus. Voulez-vous être en mesure d'élever vos enfants, si vous en avez ou si vous en aurez un jour, de la bonne manière? Acceptez les enseignements de Jésus. Recevez-le. Vous vous en trouverez bien. Cessez de dire, je fais ce que je veux. Et dites, Seigneur, désormais, je veux faire ce que tu veux. Et tout ira beaucoup mieux, je vous assure. Tout ira beaucoup mieux. C'est la deuxième chose qu'il a fait. Il a ouvert la porte. Ouvrez la porte. Pas seulement de votre maison, de votre cœur, de votre vie. Dites, viens, Seigneur, sois le maître. Alléluia. Sois le Seigneur. Ensuite, il a réparé ses fautes. Ah, important ça, hein? Il s'est tenu devant le Seigneur. Là. Je pense qu'il a dû le regarder droit dans les yeux, en lui disant, Seigneur, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends quadruple. Il faut le faire. Hein? Et en plus, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Ça, c'est un changement de vie radical. Hein? Lui qui était grippe sous, je ne sais pas ce qui lui restait après, mais en tout cas, il était en paix avec Dieu. Et ça, la paix de Dieu, c'est un trésor. Vous voyez? Ça, c'est un changement de vie. Il était malhonnête, il est devenu honnête. Il était voleur, il a restitué ce qu'il a pris. Il était avare, il est devenu généreux. Un changement de vie. Ça s'appelle la conversion. La conversion. Il y a des gens qui croient que se convertir, ça veut dire changer de religion. Je suis catholique, je deviens protestant, ou je suis autre chose, je deviens musulman. Non. La conversion dans le sens biblique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça, c'est un changement d'orientation, de direction, de comportement, de style de vie, si vous voulez. On fuit le péché dans lequel on a vécu jusque-là et on prend plaisir désormais à faire le bien et à obéir aux commandements de Dieu. Alléluia. C'est se convertir, ça. On se détourne du mal et on se tourne vers Dieu. Vous voyez ? La vraie spiritualité, la vraie vie chrétienne, c'est ça. C'est pas simplement se plaire à entendre le message de l'Évangile. Vous pouvez venir dans ce lieu pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ne pas bouger le petit doigt et être finalement perdu. C'est ce qui arrivera à certains. Seigneur Jésus nous dit qu'au jour du jugement, il y aura de mauvaises surprises pour certains qui lui diront : Mais Seigneur, tu as enseigné, tu as prêché l'Évangile devant nous. Nous t'avons vu faire des miracles, nous avons même mangé et bu en ta compagnie. Vous vous rendez compte? Prendre le repas en même temps que le Seigneur, c'est bien. Ça ne suffit pas. Jésus dira, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le péché. Autrement dit, des gens qui, oui, ils auront entendu, mais ils auront refusé de changer de vie, d'orientation, de direction. Prenez cette décision courageuse cet après-midi. Avec l'aide et le secours du Seigneur, avec sa grâce, dites Seigneur, je veux changer de comportement. Peut-être que je m'en sens pas capable. Seigneur, il y a des tas de choses à régler dans ma vie, comme il y en avait dans la vie de Zachée. Mais toi, tu vas me donner l'énergie que je n'ai pas, la capacité que je n'ai pas. Tu vas m'aider à sortir de mon état. Et Dieu vous aidera. Alléluia. Alléluia. Et puis, il a fait autre chose. Il est descendu de son arbre, il a ouvert la porte, il a réparé ses fautes, et surtout, il a cru. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alors, il était fils d'Abraham parce qu'il était juif, n'est-ce pas ? Abraham, c'est l'ancêtre de la nation israélite. Ok, d'accord. Mais la Bible nous dit que celui qui croit, il devient, spirituellement parlant, comprenez-vous, enfant d'Abraham. Parce qu'Abraham nous est présenté dans la Bible comme étant un modèle de foi. C'était un homme de foi. De telle sorte que, sur le plan spirituel, sur le plan moral, celui qui a la foi, il est aux yeux de Dieu un enfant d'Abraham. Et c'est pour ça que, ayant la foi, Zachée était un enfant d'Abraham. La foi en qui? La foi en quoi? La foi en Jésus, bien sûr. C'est que pour que nous soyons sauvés, il s'est passé quelque chose, savez-vous? Tout à l'heure, il y a été fait allusion dans les chants. Il s'est passé quelque chose. Pour que nous soyons sauvés, Jésus est mort sur la croix. Vous savez ça? Il nous a aimés à ce point. Il a pris sur lui la condamnation qui nous menaçait. Il a pris sur lui le fardeau de nos péchés. Et il a subi cette condamnation, ce châtiment, cette mort que nous méritions. Et au travers de ce sacrifice, au travers de ce qu'il a fait, pas de ce que j'ai fait, pas de ce que vous avez fait, mais de ce qu'il a fait, eh bien, même le pire des pécheurs, je ne pense pas qu'il y ait le pire des pécheurs cet après-midi parmi nous, mais le pire des pécheurs même peut être sauvé. Parce que Christ a donné sa vie. Voyez. Le salut réside dans l'œuvre de la croix. Amen. Voilà. Seulement la croix, voyez, nous la représentons vide. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas restées là. Et pas restées clouées sur la croix. Il est ressuscité, notre Sauveur. Il est vivant, alléluia. Et il est toujours en mesure d'accomplir ce qu'il dit là dans ce texte. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tout à l'heure, on a chanté ce chant qui disait que Dieu est, où ça? Au ciel? Oui, d'accord, mais où c'est qu'il est là pour le moment? Là. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin d'espoir, Seigneur, tu es là. Vous savez que Dieu est là? Là, 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 là. Ici, là. Maintenant, non pas parce que le lion lui-même est sacré, mais parce qu'il a promis d'être là où deux ou trois sont réunis en son nom. Parce qu'il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, faites des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand l'évangile est prêché, Jésus est là. Et parce que cet après-midi, nous prêchons l'évangile, Jésus est là. Alléluia, vivant, ressuscité, ayant donné sa vie par amour pour nous sur la croix. Et si nous remplissons les conditions que Zachée a su remplir, nous recevrons le salut comme un cadeau. N'essayez pas de mériter, de gagner. Les gens ils coupent les cheveux en quatre, ils sont compliqués. Zachée n'a pas été compliqué. Il est descendu de son arbre, il a ouvert la porte et a laissé Jésus entrer, il a réparé ses fautes, s'engageant donc dans de nouveaux comportements, et il a cru en Jésus-Christ. Ben c'est ce qu'il vous faut faire. Vous faut faire de même pour être sauvé. Descendez de votre arbre et dites au Seigneur, je suis un pécheur. Rien d'autre, rien d'autre. Je veux venir à mon niveau véritable. Je ne veux pas essayer de me grandir artificiellement, mais venir devant toi tel que je suis. D'ailleurs, on ne peut pas venir vers le Seigneur autrement que ce qu'on est, parce qu'il voit dans notre vie. Hein. Un seul regard lui suffit pour nous connaître à fond. Donc, on ne peut pas tricher. Dites-lui, Seigneur, oui, 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 je suis un pécheur. Pour les dames, une pécheresse, je te le confesse à toi, rien qu'à toi. Pardonne-moi. Hein. Pardonne-moi. Seigneur, je t'accepte, je te reçois dans ma vie. Voilà, je ne veux pas simplement lire quelques versets de la Bible ou entendre l'évangile prêché, mais je veux te recevoir, je veux t'accepter, je veux que tu deviennes le maître, le Seigneur. Seigneur, je veux changer de vie, je veux changer de comportement, je veux plus vivre comme j'ai vécu jusque-là, je veux que tu deviennes le maître, un bon maître. Alléluia, le Seigneur. Seigneur, je mets ma foi en toi et je crois que par ton sacrifice accompli, une bonne fois pour toutes à la croix du calvaire, eh bien tu es en mesure d'effacer tous mes péchés d'un seul coup, d'un seul. Et si vous suivez ce cheminement, vous serez sauvés, vous voyez. C'est pas compliqué. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde, à condition de bien le vouloir. Eh bien, puissiez-vous cet après-midi, faire ce choix, imiter Zachée, et vous recevrez ce qu'il a reçu, le salut de votre âme, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et Jésus a conclu comme ça, en disant, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, dans cette vie, parce que je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu, notre Seigneur, pour ça cet après-midi. Pas pour dire, tiens, il est là, un tel, ah non, il n'y est pas. Ah tiens, celui-là, il y est. Pas simplement un observateur, mais non, il est venu, il est là. Parce que son but, le but de sa venue, l'objectif qu'il a, c'est de sauver dans ce lieu, cet après-midi, ceux qui ne le sont pas encore. Alors, si vous n'êtes pas encore sauvés, ayez recours à lui. Et suivez le chemin, et la bénédiction de Dieu viendra sur vous. Amen. Hein? C'est formidable, vous voyez. Qu'on parte à 104 ans, comme cette chrétienne dont je viens de parler, ou qu'on parte beaucoup plus tôt, j'étais en train de calculer, je me disais, oh là là, hein, il me faudrait vivre 40 ans de plus, comme ça vous saurez mon âge. Hein. Ça me paraît énorme, ça. Hein. Je ne sais pas si j'atteindrai cet âge-là, j'en doute fort. Mais qu'importe, qu'on vive jusqu'à 104 ans, qu'on vive beaucoup moins longtemps, l'important c'est de partir du bon côté. Alléluia! Et en attendant de vivre avec le Seigneur sur cette terre, et ça, sachez-le, c'est le meilleur. Amen. Pour rien au monde, je ne veux revenir en arrière. Et je suis sûr que beaucoup parmi nous, eh bien, peuvent dire cela. Si c'était à refaire, je le referais. Si c'était à refaire, eh bien, aujourd'hui, tout de suite, je me déciderai encore pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Prions quelques instants.